savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
C'est la première nouvelle aujourd'hui, celle de cette rencontre entre M. Legault, M. Trudeau. Rencontre aux semaines, première oui, depuis oui, oui. 2022 quand
décembre,
même.
Décembre 2022, on se souvient, ils avaient pris un café au Café Olympico.
Voilà, et là, ils devaient s'ennuyer l'un de l'autre. Il y avait beaucoup
Ils s'étaient croisés. Quand on dit, faut faire attention. Ils s'étaient croisés dans des rencontres communes, l'annonce de Nordvolt, mais avec plein d'autres mondes, là, des grandes annonces officielles avec plein de monde.
Là, je parle d'une date, premier, là, un vrai tête-à-tête.
Un vrai tête-à-tête, là, c'est ça. Ça faisait, quoi, 15 mois et plus là, qu'il n'y avait pas eu ça.
Et là, ben, ils se sont rencontrés, mais le problème, c'est qu'on ne s'est pas entendu, du moins, on n'a pas répondu à la demande principale de Québec, qui était de redonner au Québec le plein pouvoir de ses droits en immigration, hein, tous ses pouvoirs en immigration. La réponse, non. Un beau trois lettres prononcé par Justin Trudeau autour de tout ça.
Et c'est ce qui fait mal, moi, je trouve, pour François Legault. Parce qu'en même temps, on se serait pas plus attendu à l'autre mot de trois lettres. Oui, dans le sens que c'est tellement gros comme demande que tu dis c'est le genre d'affaire où... C'est l'affaire d'une rencontre, puis une autre rencontre, puis une autre rencontre. C'est que tu obtiens des fois sur un an, deux ans. Mettons que tu l'obtiens, là, je pense que ce ne sera pas le cas, mais même si tu l'obtenais, même si tu avais un gouvernement ouvert à Ottawa qui était prêt à négocier ça, tu ne le donneras pas en 48 heures.
Ouais.
Mais là, c'est un non catégorique. Là. Par contre, sur le reste, un petit peu d'ouverture surtout. Mais rien de réglé. Moi, je trouve que c'est ça le côté gênant à la sortie de la rencontre.
Il n'y a pas d'engagement sur rien.
Il n'y a pas une case de cocher.
Non.
Pas une case de cocher.
Oui, parce que là, sur l'ouverture, on va en parler, là, il y avait évidemment le remboursement du montant $1 milliard. Là. C'est ce que veut le gouvernement Legault, entre autres, pour les demandeurs d'asile. Là. Tous les frais d'immigrants qui
pour
arrivent
2021,
au Québec.
2021, 2022, 2023, trois années.
Oui, puis là, vous faites pas le saut, $1 milliard, mais c'est un montant qui peut sembler raisonnable quand on comprend que c'est tout ce qui a été déboursé par l'État pour accueillir, loger, accompagner, donner
aide juridique, aide sociale, éducation, les écoles, c'est ça.
Tout y est passé.
Que le fédéral, normalement, devrait payer pour les demandeurs d'asile. En tout cas, c'était le cas auparavant.
Oui, et là, ben, on a dit qu'il y avait de l'ouverture là-dessus. Il va y avoir des équipes, là, et du côté fédéral et du côté provincial, qui vont se pencher là-dessus pour calculer un montant.
Sur les chiffres. Parce que M. Trudeau semble reconnaître le principe que le Québec en a fait plus que sa part. Il le dit lui-même. Québec a fait plus que sa part. Puis il y a une facture rattachée à ça.
Oui.
Mais là, est-ce qu'il est prêt à s'approcher du milliard que le Québec demande? Ou, parce que Québec et Ottawa sont tellement loin.
Oui, c'est ça, on n'est pas proche d'une entente.
On est tellement loin que tu te dis, OK, mais quand M. Trudeau dit « je suis ouvert », es-tu ouvert à s'approcher du milliard? Parce que lui, la dernière fois, il a versé 100 millions. Donc, tu es tellement, tellement petit comme montant, tellement loin. C'est dur de se faire une idée. OK, il y a de l'ouverture, mais il y a de l'ouverture pour quelque chose de sérieux. Mais au moins, il y a une certaine ouverture. Ça, c'est mieux que rien. Ça, c'est positif.
Oui. Dans les autres choses positives, ben, il y a le resserrement des visas pour les étrangers qui viennent au Québec.
Mais
là,
ça, c'est à l'étude.
Encore une fois, c'est ça. Il n'y a pas d'engagement. Tu fais bien de le rappeler.
L'idée que le Québec puisse avoir un mot à dire sur les immigrants temporaires.
C'est à l'étude,
c'est ça.
Là, on parle aussi d'accélération des traitements des dossiers de demandeurs d'asile. On est à 18 mois en ce moment, on veut rapprocher à 6 mois.
Mais ça, c'est le fédéral fait ce qu'il peut. Là. Ils sont débordés, ouais. Le ministère, sont englués complètement.
Puis c'est à l'étude, au pire.
Hein? Ouais, mais là, c'est à l'étude ou au travail.
On va continuer de travailler.
Oui, on va travailler fort, c'est les mots de M. Trudeau. Mais moi, sais-tu quoi? Je m'étais fait une idée ce matin, comme en me levant. Je m'étais dit, mais ça leur prend une petite bonne nouvelle. D'après moi, ils vont signer l'entente sur la santé. C'est pas beaucoup, c'est un, mais c'est pas beaucoup. C'est beaucoup, puis pas beaucoup, mais c'est un milliard. Le Québec en demandait 6, il en a obtenu un. Ça, c'est le printemps passé. Là, genre, mais le 1 est toujours pas versé. Puis il doit absolument être versé avant le 31 mars. Je me disais, on est à 16. Aujourd'hui, on est le 15 mars. Là. Il reste 16 jours avant l'échéance, avant la date finale. Je me disais, ils vont au moins régler ça. T'sais, ça fait, tu sais, quand je disais, une petite coche dans une case. Ça, on l'a réglé. Ça, là, le chèque part, là, c'est réglé.
Ouais.
Même pas ça. M. Trudeau est sorti en disant sur la santé, on discute toujours, puis tout ça. Puis, OK, t'as un dossier, il reste 16 jours pour le régler. Les deux premiers ministres sont dans la même pièce, ils sont même pas parvenus à le régler.
Puis on s'entend-tu que s'il y a deux premiers ministres en ce moment, Mario, qui ont besoin d'une bonne nouvelle politique, là, d'un côté comme de l'autre, là, en ce moment, puis qui ont des difficultés d'un sondage, qui ont des difficultés dans l'opinion publique.
Mais on dirait que Justin Trudeau, il s'en fout. Ouais. Il veut dire, lui, mettons son point de presse ce matin, là, Il y a pas, tout va bien. Le Québec, le Québec fait sa part.
Tout va très bien, Mme la Marquise.
Le Québec demande 1 milliard. Oui, oui, on étudie ça, on regarde ça. Oh, tout va... Non, mais c'est comme, c'est quasiment beau, là. Tu sais, si tu te voyais, on était en crise hier, là, ça se battait dans l'entrée d'une soupe populaire là, pour avoir des repas parce que le monde n'a plus à manger. Mais c'est comme si tous ces problèmes-là que nous, on voit, ils au-dessus de ça. Tu sais, c'est, non, non, c'est positif, puis on travaille fort, puis le Québec fait un bon travail, puis nous, on fait un bon travail, puis on veut collaborer, puis on va travailler fort. Puis...
Ça explique peut-être aussi pourquoi les coups de Pierre Poilievre portent autant. Hein. Tu sais, quand il fait juste... on s'entend, là, par exemple, le voyage dans le sud de M. Trudeau là, à Noël. On se comprend qu'il n'y avait rien d'illégal, même
non,
du côté mais... comme tel, éthique, on n'a rien trouvé, mais l'image de M. Trudeau, oh, tout va bien, part en vacances, des maisons
mais
de millions.
Mais un matin, lui, il n'y a aucun moment... Il n'y a pas rien de catastrophique qui arrive. Là. Tout va bien. Puis positif. Il y a eu une bonne rencontre. C'était constructif. T'sais, François Legault, ben, tu sens que lui, ouais, il essaie de dire la rencontre était constructive. On a avancé sur quelques points. Mais lui, François Legault va passer une mauvaise semaine encore la semaine prochaine avec Paul Saint-Pierre-Plamondon en face qui va dire « C'est ça, le fédéral, tu te fais dire non, puis tu te fais avoir, puis tu vas te mettre à genoux. » Bon. Seul point, je dirais, un peu positif, c'est qu'ils ont fixé une autre rencontre le 30 juin.
Oui.
Puis quand je dis positif, c'est que ça te crée une espèce d'obligation de résultat. Fait que sur tous les sujets qui ont dit qu'ils allaient étudier ça, ça peut pas être complètement remis au calendrier grec. C'était comme une obligation. Tu dis, OK, on se revoit dans 3 mois. Ce qui fait que, moi, sur au moins quelques-uns des sujets, là, faut que tu arrives avec quelque chose. Tu peux pas arriver 3 mois plus tard puis dire, ben là, on est au même point, on tourne en rond, on étudie. Fait que je me dis que sur certains de ces dossiers-là, ils vont sentir une pression, une obligation de résultat, puis il y a peut-être des choses qui vont être réglées d'ici la fin juin.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Tu parlais de Paul Saint-Pierre-Plamondon, le chef du PQ, qui, oui, là, réagit fortement en disant à peu près ce que tu venais de dire, là, trouvait que François Legault est allé échouer là, là-bas dans sa rencontre avec M. Trudeau.
Tu sais, quand le PQ avec sa position souverainiste, tout ça, ça le rend souvent prévisible.
Oui, hein? on aurait pu écrire.
Nombre de fois, je pourrais écrire dans le journal la position du Parti québécois sans avoir écouté le point de presse parce que on sait exactement ce qu'ils vont dire.
Oui, mais c'est même pas, Mario, la première nouvelle qui retient l'attention concernant
non,
Paul Saint-Pierre-Plamondon.
Aujourd'hui,
c'est beaucoup moins drôle, malheureusement, parce que la Sûreté du Québec a annoncé avoir arrêté un homme de 40 ans qui aurait proféré des menaces de mort sérieuse là, envers Paul Saint-Pierre-Plamondon et d'autres élus en politique québécoise. Quelqu'un, regardez, je vais repartager certains de ses propos pour vous compreniez la gravité là, à la maison de ce qu'il a dit. On se comprend, c'est absolument odieux. Là. Lui, il a dit, c'est mon dernier message, je t'avise, si tu changes pas ton discours sur l'immigration, je vais m'arranger pour exterminer ta famille. Tu vas forcer tous les immigrés de couleur à un rapatriement forcé vers leur nation non négociable. T'as 30 jours. Et là, parlait justement d'aller là, s'en prendre physiquement tuer, exterminer la famille de Paul Saint-Pierre-Plamondon et lui-même là, s'il ne se conformait pas à une espèce de politique d'immigration de 30 jours,
d'immigration
de position
zéro, d'immigration. Parce que lui, c'est zéro immigration. Ça semble être ça, la position de cet individu-là.
Oui, qui en veut zéro, zéro. Mais c'est des menaces qui ont été, là, en début mars, proférées de manière tellement sérieuse que la Sûreté du Québec s'est attardée.
Et pas garoché sur les réseaux sociaux, dans un courriel adressé.
Oui. Un courriel adressé directement.
Ce qui est perçu quand même par la police différemment, là.
Oui, on se comprend parce qu'il y a des gens qui écrivent à peu près tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On n'étonnera personne, mais d'envoyer, là, de prendre le temps d'envoyer un courriel là, direct à quelqu'un pour le menacer, là, comme ça, puis menacer lui et sa famille, c'est beaucoup plus grave, effectivement.
Mais on dit aussi d'autres élus. Ça, c'est resté flou aujourd'hui, là. De qui d'autre? Est-ce que c'est d'autres élus de l'Assemblée nationale? Ça semble.
Oui, bien, on dit que ça aurait été à ce point sérieux. Des menaces comme celle-là, que la Sûreté du Québec était en train d'évaluer si les personnes visées par des menaces avaient besoin de gilets pare-balles, Mario. Là, on est quand même loin. Là. C'est une mesure habituellement qui est juste considérée pendant les campagnes électorales, puis même là, là. C'est quand on arrive à un niveau de menace qui est très, 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 très élevé. Et là, ben, on a vu un Paul Saint-Pierre-Plamondon émotif aujourd'hui là, qui a réagi à tout ça. Moment difficile pour lui, là, selon aussi là, ses relations de presse, qui disait que c'est sûr, te faire menacer toi, on s'y attend en politique, des figures publiques. Toi aussi, Mario, t'en as reçu ton lot pendant la pandémie et autres. Mais quand ta famille est visée, puis là, on dit que l'individu, là, lui et ses collègues, auraient dressé une liste de tous les membres de la famille de Paul Saint-Pierre-Plamondon, puis des membres de la famille des politiciens québécois qui étaient visés là-dedans, Mario. On se comprend que ça,
ouais, mais
ça vient chercher
les
plus,
policiers
là.
Ont pris ça au sérieux. Là, il semble que, par exemple, on attend toujours de savoir si le directeur des poursuites criminelles et pénales va donner suite. Là, on semble que c'est en évaluation. J'ose espérer qu'on a pris toutes les mesures, parce que là, les individus sont relâchés, sont pas détenus. J'ose espérer qu'on a pris toutes les mesures pour s'assurer que ces individus-là n'allaient pas poser des gestes répréhensibles.
Oui, surtout, on s'entend-tu que ce serait assez déplorable, merci.
Non, mais, je dis ça parce qu'au Québec, on remet vite en liberté. Là,
hein. Ben, c'est ça, ça serait déplorable.
Vite.
Ce serait déplorable que cet homme-là en question, lui, là, il recouvre sa liberté, mais pendant ce temps-là, Monsieur Paul Saint-Pierre-Plamondon, il n'a pas sa liberté totale. Il doit faire attention à ce qu'il fait. Il sous menace constamment. C'est deux pas de mesures qui sont un peu épouvantables.
Mais on a quand même, je veux dire, sincèrement, pour l'avoir vécu à la Sûreté du Québec, tout ça, quand même des services de sécurité qui sont professionnels, qui sont top niveau, là, efficaces. Donc, essayons de nous fier à eux.
Tout savoir en 24 minutes.
On revient à la joute politique ici au Québec, parce que Marois Risky, là, député libéral de Saint-Laurent, il n'est pas allé de main morte aujourd'hui, Mario, pour qualifier un individu, un ministre qu'on n'a pas tant vu que ça dans les dernières semaines, les derniers mois, et qui pourtant est dans une région qui est dans l'eau chaude pour la coalition Avenir Québec. On parle bien évidemment de la capitale nationale et du ministre Jonathan Julien, qui est, oui, ministre des Infrastructures, mais qui gère aussi la capitale nationale. C'est lui qui en est responsable. Et là, selon Marois Risky, elle l'a pointé directement du doigt en disant que c'est à cause de M. Julien, selon elle, qu'il n'y a rien qui arrive, qui achève comme projet dans la grande région de Québec. On les connaît, les projets, évidemment, qui ont avorté ou qui ont ressuscité par la suite. Troisième lien, tramway, tous les projets structurants autour de la capitale nationale. Ce dont quoi s'est défendu, bien évidemment, le principal concerné, Jonathan Julien, aujourd'hui. Mais c'était une pique plus forte là, qu'on a vue dans les derniers temps, quand
même. En fait, je comprends le point de Marois Risky à 50%. C'est vrai qu'il y a une déception là, majeure dans la région de la capitale nationale, qui est une des premières régions à avoir voté pour la CAQ, qui a voté fort pour la CAQ et qui a présentement l'impression qu'il n'y a plus de projets régionaux, là, qu'il y a quelque chose qui tombe. Là, par contre, de le personnaliser sur Jonathan Julien, est-ce que c'est de la faute personnelle de Jonathan Julien? Ça me paraît un peu court comme analyse, parce que, tu sais, le troisième lien, à la limite, Geneviève Guilbeault était l'ancienne ministre régionale et maintenant ministre des Transports. Les deux dossiers dont on parle sont des dossiers de transport.
Oui.
Mais tu sais, finalement, c'est pas vraiment Geneviève Guilbeault qui a pris probablement les décisions finales dans le dossier du tramway ou du troisième lien. C'est probablement François Legault lui-même. Donc, de faire porter individuellement et personnellement par Jonathan Julien tout le poids que c'est lui le problème... Ça m'est apparu gros, à la limite grotesque, là, tu sais, comme... Ouais. Bon, je sais qu'en politique, on fait ça, c'est son vis-à-vis, parce qu'elle, c'est la critique dans les dossiers de la capitale nationale de Québec. Donc, lui, c'est le ministre de la capitale nationale. Comme vis-à-vis, tu sais, comme critique, elle attaque son ministre vis-à-vis. Mais je veux dire, quand tu le vois dans un titre, dans le journal, ça résiste pas beaucoup à l'analyse. Ouais, Jonathan Julien, oui, la CAQ, là, je comprends qu'il y a une déception énorme, la CAQ livre pas la marchandise pour Québec. Est-ce que c'est totalement de la faute à Jonathan Julien? D'après moi, il y a plus gros que ça, là.
Tout savoir en 24 minutes.
Mais il n'y a pas juste Jonathan Julien qui s'est fait chicaner aujourd'hui, Mario. Toi, moi et tous les Québécois, on s'est fait chicaner aujourd'hui. On est des derniers de classe, ça a de l'air. Dans quelle catégorie? Ben, pour la sobriété énergétique. C'est les propos du ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, là, qui est tout prêt de déposer son projet de loi sur l'avenir énergétique. Là. Ça doit arriver ce printemps. On se rappelle, là, Hydro-Québec va avoir besoin de doubler sa capacité, là, près de 200 térawattheures. On parle d'investissement, là, je rappelle, ça donne le vertige, 185 milliards de dollars qu'on va investir d'ici 2035. Mais c'est encore une fois là, la sobriété énergétique, un concept qui est très cher à M. Fitzgibbon, puis qui a été ramené encore une fois de l'avant dans un point de presse, alors qu'il a expliqué que, ben, si on veut, là, OK, sobriété énergétique, c'est un beau terme, mais si on simplifie, les Québécois, c'est des gaspilleux, Mario.
Non, on utilise trop d'électricité. Mais peut-être faudrait établir un lien entre on paye l'électricité les moins chères en Amérique du Nord, nettement moins chères que les autres, on en dépense plus.
Ouais.
D'après moi, n'importe quel bien, je sais pas, là, tu sais, si le popcorn était moins cher dans un État américain, était à la moitié moins cher que dans le reste de l'Amérique du Nord, probablement qu'au bout de 5 ans, on s'apercevrait que cette population-là consomme plus de popcorn que les autres.
Mais je pense qu'on est plus gaspilleux sur l'eau potable, tout court aussi, Mario.
Ouais,
aussi.
Mais dans le cas de l'électricité, qu'est-ce que tu veux? Comme on paye moins cher l'électricité, c'est pas juste, oui, à nos habitudes de vie. T'sais, on gaspille, on laisse les lumières ouvertes parce que ça coûte pas si cher. T'sais, c'est le plus bel exemple, c'est les Européens. Là, t'sais, ils louent toi un appartement en Europe. Là. Il n'y a jamais de sécheuse. Ils vont avoir une laveuse souvent, mais une sécheuse, c'est extrêmement rare parce que en Europe, là, une sécheuse, c'est vu comme un bien de luxe. Pourquoi? Parce que, écoute, faire rouler une espèce de cylindre avec de la chaleur et tout ça, juste pour faire sécher, là. Hey, fais sécher à l'air libre, ça coûte rien. Ça coûte tellement cher, tu sais, faire chauffer l'élément de la sécheuse, faire tourner le moteur, ça coûte tellement cher l'électricité. Pour laver, c'est correct, t'as pas le choix, là. Faut que tu laves. Mais pas pour sécher, tu sais, ça apparaît au prix de l'électricité là-bas, ça apparaît. Écoute, là, mets-toi un petit corde, un petit rack, quelque chose, là, ouais. Un petit rack, mets ton linge là-dessus. Mais nous, ici, tout le monde a une sécheuse. En fait, pas tout le monde, mais beaucoup de monde a une sécheuse. Donc, on dépense beaucoup d'électricité parce qu'on paye ça tellement moins cher. Mais là, après ça, va changer ça. On est habitué à payer moins cher, puis on est convaincu. Nous, on est convaincu qu'on paye cher l'électricité. Le hydro, ça a augmenté, puis c'est ça que t'entends sur la rue. Les Québécois n'ont aucune idée, ne sont pas au courant de ce que coûte l'électricité ailleurs. Là. Ils ne savent pas. Ils comparent. Les gens comparent le prix de leur électricité avec celle qu'ils payaient l'année passée, puis il y a 5 ans ici au Québec, mais ils ne savent pas combien l'électricité est vendue ailleurs dans le monde.
Oui, puis ça semble être le message que tente de passer en ce moment, M. Fitzgibbon.
Mais là, la première étape, moi, je pense qu'ils vont jouer sur les heures. Là. Ils vont dire c'est moins cher la nuit ou dans le milieu de la. Qui vont encourager les gens qui le peuvent à faire des économies en faisant marcher tous les appareils ou faire marcher en dehors des heures de pointe. Déjà, on pourrait obtenir certains gains. Mais j'ai hâte de voir son projet de loi. On a l'impression que ça pourrait être peut-être plus audacieux qu'on pense.
Actualité.
Hier, à pareille heure, ou presque à l'épisode, Mario, on a reçu Denis Croteau, hein, qui est un homme qui s'est acheté un Can-Am Spyder, un véhicule à 3 roues qui roule le vent dans les voiles, comme on dit, et qui, lui, a rapporté que son véhicule a brisé dans les dernières années. Là. Lui expliquait que c'est comme un cadran de son tableau de bord qui est tout électronique, mais qui a brisé. Qui ne peut même plus voir la vitesse à laquelle il roule. Il n'y a plus un système qui fonctionne.
Il ne peut plus l'utiliser depuis 2022.
Oui.
Ça fait 1 an et demi qu'il ne peut plus utiliser. Il l'a acheté seconde main, il l'a acheté usagé. Ça fait 1 an et demi qu'il ne peut plus s'en servir. Puis, d'une certaine façon, l'appareil qui est encore en bon état pour le reste, qui n'est pas vieux, qui n'a pas trop de kilométrage, n'est plus utilisable. Donc, il n'est plus vraiment revendable non plus.
Oui, et puis habituellement, tu fais réparer tout ça. Le hic, c'est qu'il n'y a plus de pièces du tout pour faire remplacer le simple tableau de bord. Ce qui fait que le reste de la mécanique, on s'en fout au final. Tu ne vas pas remplacer cette pièce-là. C'est plus utilisable. Il nous expliquait, entre autres, les déboires qu'il avait là, avec l'entreprise le BRP, là, donc de Bombardier, là, les produits récréatifs. Exactement. Et qui, eux, semblaient pas être capables de fournir la pièce, même que, selon lui, lui avait répondu, là, après un échange de courriel et tout, de tout simplement s'en racheter un autre, Mario.
Un plus récent,
oui.
Ou un neuf.
On se comprend que c'est pas la réponse que tu souhaites obtenir quand tu veux faire réparer.
Même si tu voulais t'en acheter un neuf, technique, mettons t'en achètes un usagé, t'as payé, mettons, 15 000 $. Là, on te dit, achète-toi-en un neuf, mais la logique, c'est que tu vas l'échanger. Là. Tu considères pas que celui que t'as acheté est une perte totale qui vaut zéro. Là. Tu sais, je vais aller faire un échange, je vais remettre celui que j'ai, mais là, celui que t'as, il manque une pièce. Comment tu peux vendre ça? Tu peux même pas faire une démonstration, il marche plus.
Et là, on a effectivement pris des démarches ici à Cube pour aller parler à BRP pour savoir, eux, t'sais, leur donner
le
droit de réplique.
En fait, on aurait même demandé en entrevue.
On aurait aimé avoir un porte-parole de BRP ici à l'émission pour nous expliquer comment ça se fait, que la pièce et tout. On a dit qu'on n'accorderait pas d'entrevue, Mario, de ce côté-là, mais j'ai quand même eu une réponse de leur part que je tenais quand même à lire pour que M. Croteau...
Une réponse écrite.
Une réponse écrite.
Pas une réponse qui a l'air toute faite là, par un département de relations publiques...
Toutefois, nous sommes sincèrement désolés pour les inconvénients subis par M. Croteau dans le cadre de la réparation du cadran de son véhicule. Nos équipes sont activement à la recherche d'une solution pour résoudre cet enjeu et lui permettre de profiter pleinement de son véhicule le plus rapidement possible. Nos clients et leur satisfaction sont au cœur de tout ce que nous faisons chez BRP. C'est bon, hein? Ensuite, explique que le fournisseur de la pièce de remplacement a des enjeux d'approvisionnement, Mario, qui est lié à l'obsolescence d'une composante électronique. C'est en 2011, là, le Can-Am Spyder, c'est obsolète, la technologie.
Mais c'est parce que, moi, dans ma tête, là, le fabricant a une responsabilité de s'assurer que son produit est réparable. Je veux dire, t'as une responsabilité, tu mets des produits sur la route, des gens l'achètent à bon prix,
En plus, on a passé un projet de loi là, sur l'obsolescence.
Ouais, puis... mais là, il n'existait pas à l'époque. Le projet de loi est nouveau, mais t'as raison. On valorise au plus haut point maintenant la réparabilité des appareils. Tu sais, d'avoir des pièces disponibles. Même Simon Jolin Barrette, je ne sais pas s'il va aller au bout de son idée, mais dans son nouveau projet de loi sur la protection du consommateur, non seulement il parle de pièces qui doivent être disponibles, mais il dit même que il faut que ce soit réparable avec des outils là, réguliers. Là. Des clés, des tournevis, de ce que la moyenne des ours ont dans leur coffre à outils normal. Devraient pas réclamer là, des appareillages spécialisés que personne n'a chez eux. Donc, à suivre.
Économie.
Nouvelle qui concerne à la fois le monde de l'intelligence artificielle et le Canada, parce que le géant Apple vient d'acheter plus tôt cette année, on vient de l'apprendre, l'entreprise d'intelligence artificielle ontarienne Darwin AI. Et donc, viennent de mettre la main sur ce nouveau département d'intelligence artificielle qui va leur permettre d'ajouter des nouvelles fonctionnalités là, à leur iOS. Là. On sait, Apple, comme tous les autres grands géants de la tech, essaie là, d'acquérir le plus de technologies d'intelligence artificielle possible pour les implanter dans leurs mécanismes qui fonctionnent déjà. Donc, on avait déjà vu dans le service à clientèle, entre autres de Apple, de l'intelligence artificielle être incorporée. Et là, on veut ajouter tout ça dans leurs autres logiciels. Donc, ça sera à suivre quand même. Mais c'est une entreprise canadienne, encore une fois, fleuron ici, Canada, Québec, de tout ce qui est intelligence artificielle.
Mais je veux dire que toutes les entreprises d'intelligence artificielle là, doivent surveiller surveiller le téléphone pour les offres d'achat ces mois-ci. Là.
Le monde.
On est au bout de notre siège pour voir qui va remporter les élections présidentielles en Russie, Mario.
Oui.
C'est Vladimir Poutine contre...
Contre personne.
Ouais, c'est ça.
Hein? Ils sont trois, en fait.
Oui, c'est vrai.
Trois adversaires.
Triés sur le volet.
Trois adversaires, trois pantins qui sont là pour perdre.
Voilà. Puis c'est un peu ce qui est reflété encore une fois. Sauf que malgré tout, ça se passe pas comme dans du beurre, Mario, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il y a non seulement eu des incursions terrestres de combattants pro-Ukraine au moment où le scrutin se déroule en ce moment, des attaques aériennes également de l'Ukraine sur le territoire russe, ce qui s'est peu vu depuis le début de la guerre. Mais surtout, on a eu des incendies déclenchés un peu partout. Il y a plusieurs arrestations qui ont été menées un peu partout en Russie, alors qu'il y a des gens qui ont tenté de lancer un cocktail Molotov dans un bureau de vote, par exemple, à Saint-Pétersbourg. Quelqu'un a incendié un isoloir à Moscou. Il y a des gens qui ont versé même du colorant dans les urnes de vote. Pour tout ça pour venir saboter le vote. Acte de défiance contre le maître du Kremlin en ce moment qui, on l'a dit, va se faire réélire de manière assez frappante. Merci. Mais du côté du Kremlin, qu'est-ce qu'on dit, Mario? Tout ça, là, ces actes de défiance, c'est clairement de l'argent qui leur a été promis par des salauds de l'étranger qui viennent saboter les belles élections démocratiques de la patrie russe. On les salue puis on les félicite.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.